Scarp Ciné.
Séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action! Bonjour, c'est Scarpe Ciné, ravi de vous accompagner sous le signe du ciné avec de nombreux invités aujourd'hui. Rencontre au Arras Film avec Carole, avec notamment la réalisatrice Valérie Donzelli et l'acteur Bastien Bouillon, qui nous présentent tous deux à pied d'œuvre en salle depuis la semaine dernière. Toujours dans ce même festival, j'ai rencontré l'acteur Julien Pestel pour le nouveau film de Christophe Baratier, Les Enfants de la Résistance. Et puis, après la musique du film LOL, je vous propose non pas un, mais deux instants ciné, deux humoristes de la région qui nous parlent de leur film préféré, Mustapha Lagraoui et Gaëtan Petit. On démarre tout de suite ce beau programme avec Valérie Donzelli et Bastien Bouillon, une rencontre avec Carole.
Les dernières actualités de Scarpe Ciné à retrouver sur nos réseaux sociaux. Restons connectés.
Écoute Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi aujourd'hui j'attends de toi ton grand roman.
Et tes enfants ça va? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin?
Nous avons le plaisir de rencontrer la pétillante Valérie Donzelli. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons l'acteur qui fait son deuxième jour au Arras Film Festival et que j'ai vu il y a une semaine dans l'incroyable Femme des Neiges, Bastien Bouillon. Bonjour.
Bonjour.
Bastien Bouillon, vous jouez un photographe qui abandonne tout pour devenir écrivain, quitte à vivre dans la précarité, d'après le livre autobiographique de Franck Cortès. Valérie Donzelli, vous signez une adaptation réussie sur un homme qui assume sa voix face aux pressions aussi de la société. En quoi ce film pour vous est personnel et pourquoi avoir choisi d'écrire et d'adapter et de réaliser ce film?
Le film il est personnel parce que voilà, je me suis identifiée moi à ce personnage et j'avais envie de raconter le désir d'un homme d'être à l'endroit où il doit être. Sans compromis, et j'ai trouvé que le livre le racontait d'une façon très belle et tout en racontant aussi quelque chose que j'ai trouvé assez passionnant, qui est le nouveau monde du travail aujourd'hui. Donc je trouvais qu'il y avait en lisant le livre une observation du monde qui correspondait à la mienne aussi, et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'adapter en portant moi mon regard sur le regard de ce livre en fait.
À propos de l'écriture, Valérie Donzelli, il y a soit le carnet crayon, soit l'ordinateur. Pour vous, c'est plutôt carnet crayon ou ordinateur?
Les deux. Moi, j'écris beaucoup avec un petit carnet, je note des trucs, j'ai plein de carnets avec des tas de trucs au début, parce que j'ai quand même un certain âge. J'écrivais dans un carnet parce que je n'avais pas vraiment d'ordinateur. Maintenant, j'ai un ordinateur, donc j'écris évidemment mes scénarios dans l'ordinateur, mais j'aime bien revenir. Même parfois, j'imprime des versions, je les découpe et je les colle dans des cahiers. Enfin, je passe par des choses parce que parfois, on a besoin aussi de se reconnecter avec une forme d'artisanat, quoi. Parce que l'ordinateur, c'est, au bout d'un moment, on ne sait plus, on fait des copier-coller on se perd un peu dans les versions et tout. Donc j'aime bien, mais j'utilise les deux, mais j'aime bien le papier et le crayon. Mon frère, il écrit, qui est écrivain, il écrit tout à la main et après il réécrit sur l'ordinateur. Je ne sais pas si vous imaginez le boulot.
Bastien Bouillon, c'est un personnage qui a véritablement une force intérieure qu'il faut montrer aussi à l'extérieur. Où vous allez chercher ce personnage, ce photographe?
Déjà, je vais puiser dans le scénario et dans la discussion avec Valérie qu'on a autour du script, et puis ensuite on s'est dit que c'est quelqu'un quand même qui choisit d'aller quelque part, qui fait un choix, et pour autant il devait être ni moralisateur ni victimaire, ça existe victimaire ? Non, victime, se victimiser, et voilà, et il doit continuer à regarder les gens autour de lui dans les yeux, et il apprend aussi à regarder des nouvelles personnes, des personnes qu'on voit moins, peut-être que lui-même voyait moins, il se met à aller, voilà, continuer à avoir évidemment une vision du monde assez ouverte, pour d'ailleurs pour arriver à ses fins d'écriture.
Valérie Donzelli, la première séquence est saisissante. Un mur, une tapisserie et un coup de marteau par derrière qui fait casser le mur et fait apparaître le personnage par derrière. C'est l'histoire d'un homme en arrière-champ qui veut passer au premier plan.
Ah, je ne crois pas qu'il veuille passer au premier plan. En revanche, j'ai fantasmé ce plan, donc je l'ai commencé par avoir cette image et je trouvais ça beau de le découvrir comme ça dans un chantier, alors que voilà, de ne pas forcément comprendre exactement ce qui se passe et ce qu'il y fait, et puis que ça raconte finalement aussi toute sa vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tout cassé pour tout reconstruire, quoi.
Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée.
Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire.
Vous voulez un travail qui vous laisse du temps.
La place des photos aussi, les photos de famille, elle est intéressante. De dire qu'il a cet œil-là sur son passé, sur sa vie de famille, ça donne une autre dimension au personnage, parce qu'il va aussi casser des choses.
Oui, c'est quelqu'un qui, en fait, a créé des ruptures, quoi. Donc, il a créé des ruptures à la fois professionnelles et aussi familiales et sentimentales. Et on le prend à un moment où il est en train, justement, de rééquilibrer sa vie. Et à la fin du film, il le trouve, cet équilibre, même si c'est un équilibre qui reste précaire. En tout cas, il est de nouveau vertical. Mais je ne voulais pas raconter la réussite du tout, et ni, comment on dit, le romantisme qu'il y a autour de l'écrivain et tout ça. Non, je voulais vraiment raconter quelqu'un qui ne peut plus faire autrement que être ce qu'il sait qu'il doit être.
Et vous, justement, Bastien Bouillon, il y a un rôle aussi sur le physique, aussi sur le mental. Comment aussi physiquement, on s'empare aussi de ce personnage.
Là, c'était plus quelque chose de l'ordre. Souvent, on nous demande, vous savez, de répéter des gestes. Par exemple, si je me mettais à jouer un bottier, j'irais faire un petit stage pour familiariser mon corps à l'habitude. Là, comme c'est quelqu'un qui découvre avec le spectateur ses petits boulots, va-t-on dire, il fallait pas travailler à être gauche, mais en tout cas là-dessus j'étais assez servi. Non, Valérie m'a demandé à juste titre de perdre un peu de poids parce que j'avais pris du poids pour Connemara juste avant, en fin d'année, et voilà. Mais c'était surtout, je pense que comme je l'ai dit précédemment, c'était quelqu'un qui regarde, voilà, qui continue à regarder sans juger. Et ses yeux se mettent à se poser différemment sur la vie. Et donc, c'était, il y avait quelque chose de l'ordre, évidemment, de la parole, puisque c'est un homme de lettres, puisqu'il est écrivain. Mais ça passe aussi énormément par le regard.
Une scène, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est avec les histoires de regard. C'est dans l'appartement, un chien, il faut enlever des buis, c'est la force qu'il faut prendre pour les buis, et puis la caméra qui regarde cet homme qui travaille, et de l'autre côté, il y a d'autres gens qui vivent leur vie, et chacun est sur son côté, avec ses difficultés ou pas, quoi. Celui qui dort dans le canapé, et avec ses... Ça. Et on est dans une société avec une forme d'exploitation, là.
En fait, c'est surtout que quand les gens viennent chez les gens pour livrer ou pour faire des petits boulots, etc., ils n'ont pas de... On ne les humanise pas, ils n'existent pas dans le regard des autres. Moi, je me souviens, une fois, j'étais chez une actrice, on discutait justement du film que j'allais faire, et à un moment donné, elle se fait livrer... je sais pas, des courses, ou je sais plus ce que c'était, et on continue notre conversation, Et le mec, on ne lui a pas dit bonjour. Enfin, je me suis dit, bah, tu vois, c'est ça mon film, en fait. Les gens, ils viennent, on dit à peine bonjour. On serait pas capable de le décrire. Et tout le monde fait ça, en fait. Les gens, c'est devenu quelque chose de tellement commun, maintenant, ce rapport au service et tout, que on fait pas attention, quoi. C'est devenu habituel, en fait. C'est comme...
Et en plus, c'est pas de le savoir qui empêchera pas peut-être Valérie, pas volontairement, mais de... moi, je dis ça parce que moi hier, par exemple, on est allé manger avec les organisateurs du festival au restaurant, et il y a eu un moment où on nous a dit faut y aller, faut présenter tout ça, et puis je crois que je suis parti un peu vite du restaurant, j'ai pas eu le temps de faire plus que quelques pas avant qu'on me dise mais viens, on va signer, on va... Mais je m'étais rendu compte que j'avais oublié de remercier le restaurateur qui m'avait follement bien accueilli et tout ça. Et puis voilà, j'ai mis un mot et c'est aussi en fait le film, il parle de... Ce que je veux dire, c'est que quand dans le film de Valérie, il y a la scène de fête avec ces jeunes gens qui... C'est pas de la condescendance vis-à-vis du livreur puisqu'ils lui mettent un pourboire. C'est pas forcément des jeunes gens mauvais, c'est juste que c'est le rythme de la vie qui nous est inculqué aussi de manière maintenant dictée aussi évidemment par la consommation des réseaux sociaux et tout ça. C'est pas forcément, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas forcément de la malveillance derrière ça, mais effectivement le monde tourne, la société va vite. Et là, en l'occurrence, les plus démunis et les gens qui sont victimes de l'ubérisation comme ça de la société en pâtissent le plus.
Mais vous faites ça depuis longtemps ?
Pas vraiment.
Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça.
Gare du Nord ?
Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture ?
Ah, je travaille.
Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave.
Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés.
La chanson Full Sentimentale, elle est là aussi pour bien appuyer de façon subtile quand même, parce qu'on en avait déjà discuté avec Joris sur les paroles de la chanson.
Oui, mais c'est marrant parce que c'est pour le coup une chanson qui était un tube dans les années 90, quoi. Donc, il était quand même très précurseur. Enfin, peut-être, je ne sais plus de quand elle date la chanson, mais c'est vieux, c'est pas du tout récent, quoi. Donc... Souchon, il était assez précurseur quand il écrivait cette chanson, parce qu'il raconte ce qu'on vit aujourd'hui, mais de façon exponentielle. Mais de toute façon, tout ça existait. Il y avait les prémices de ça. C'est le capitalisme et le libéralisme qui sont la cause de ce nouveau monde dans lequel on vit. Et l'intelligence artificielle, maintenant, c'est encore autre chose. Mais à l'époque, moi, ça va très vite, parce que quand j'écrivais le film, l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas beaucoup.
La fantaisie de ce film, c'est pour apprendre à connaître les personnes. On les filme non pas par le visage, mais par les pieds. Et c'est ça l'originalité, finalement. C'est que, finalement, montre-moi comment tu te chausses, je te dirai qui tu es.
J'aime bien regarder les chaussures des gens, parce que c'est vrai que ça dit quelque chose des gens. Et ensuite, lui, c'est aussi quelqu'un qui ne regarde pas dans les yeux, parce que c'est quelqu'un qui est dans le service. Et quand on est dans le service, on ne regarde pas son interlocuteur dans les yeux, donc... Il a tendance un peu à baisser le regard comme ça. Et c'est vrai que souvent, on démarre comme ça. Quoi. Il voit des pieds en bas de chez lui parce qu'il est dans une cave. On voit les pieds des gens parce que c'est une façon aussi de ne pas leur donner de visage parce qu'il en voit beaucoup. Voilà, je trouvais ça juste en fait pour le film.
Dans la vision de la misère qui est aux enchères, donc l'ubérisation dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi le fait que dans le dialogue, on a toujours quelque chose à sacrifier, même quand on vit peu. Et c'est important de le ressentir, ça aussi.
Bien sûr, alors ça, c'est quelque chose qu'il écrit, Franck, et qu'il analyse sur sa... pauvreté, il dit, voilà, on trouve toujours quelque chose à sacrifier quand on vit avec peu, et c'est vrai. C'est pas... on a toujours besoin de réduire, et c'est ça la difficulté, en fait. C'est pas juste vivre avec peu, c'est qu'il y a toujours besoin, il y a toujours un moment où on doit dire ça oui, ça non, sacrifier quelque chose, quoi. Et en tout cas, lui, ce qu'il veut pas sacrifier, c'est son temps, sa liberté, pour pouvoir faire ce qu'il a besoin de faire, c'est-à-dire écrire.
Bastien Bouillon, vous enchaînez, vous, les tournages, les projets, les films. Dans le film de Valérie Donzelli, c'est un personnage qui vous a apporté quoi dans votre jeu, dans votre façon d'être, dans votre réflexion ?
D'une manière carriériste totale, je pourrais dire tout simplement que en fait, c'est mon plus grand rôle. Pour l'instant, c'est le plus grand rôle de ma carrière. Je pense évidemment au rôle de Johan Vives dans La Nuit du 12. Et j'en profite toujours pour faire un petit clin d'œil au dénominateur commun de ces deux projets, Gilles Marchand, co-scénariste de Valérie et de Dominique Moll. Voilà, ben non, mais le film, il m'a apporté, évidemment, c'est toujours agréable quand un réalisateur ou une réalisatrice vous fait confiance au point de vous mettre sur une partition aussi centrale que celle-là. C'est gratifiant.
Ben merci beaucoup pour ce très beau film à pied d'œuvre avec Valérie Donzelli et Bastien Bouillon qui étaient nos invités ici à la Race Film Festival. Merci Carole, merci à vous.
Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde.
C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre.
Paul, t'es pas un vrai pauvre.
Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche ?
C'est votre métier, le bricolage ?
T'es complètement taré.
J'ai une bémol. Vous avez pas trop la tête à faire ça.
N'importe quoi d'autre.
Espoir. Comment t'en es arrivé là ?
J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard.
À pied d'œuvre, le nouveau film de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon en salle depuis le 4 février. Un coup de cœur pour Carole et moi, donc allez-y. C'est un magnifique film. Dans l'interview, on parlait de Foule Sentimentale. Bon, on l'écoute tout de suite. En version familiale, Ours, Pierre et le père Alain, c'est Scarpe-Ciné. Merci de nous suivre.
Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle. Oh, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, les gens lavés hors d'usage, et tristesse sans aucun avantage. Inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle. Oh, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul de Sulitzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravagea la mouquette du ciel des vagues, un désir qui nous embarque pour de demain nos enfants pâles. Un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale. On a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles. Que des choses pas commerciales. Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle.
La famille Souchon, foule sentimentale dans Scarpe Ciné. Partons pour de l'aventure avec des enfants de la Résistance, le nouveau film de Christophe Baratier, bien connu pour avoir réalisé Les Choristes. Ce film, Les Enfants de la Résistance, c'est notamment avec Julien Pestel et il est mon invité aujourd'hui dans Scarpe Ciné sur Radio Scarpe Sensé et Radio Club. L'histoire, pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète, résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotage, messages cachés et évasion périlleuse, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l'ennemi. L'audace et l'amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l'injustice. C'est l'adaptation d'une bande dessinée très connue, Les Enfants de la Résistance, avec Julien Pestel.
Rencontre avec les acteurs du cinéma en Hauts-de-France sur Scarpe Sensé.
Je suis née à Pont-à-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse.
Combien de fois je vous ai dit, on ne discute pas les décisions de l'arbitre.
T'es pas arbitre, t'es tué.
Non, ça c'est rien, c'est juste le...
Ça vous verrez ça.
Ah ouais, c'est ça.
Nous sommes ici en France en 1940. Trois adolescents courageux prennent conscience de l'urgence de résister face à l'occupant allemand. Pour en parler, je suis avec l'invité. J'ai le plaisir d'interviewer Julien Pestel. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous jouez le professeur des écoles dans cette fresque historique ici. L'histoire d'un homme qui veut continuer à transmettre, à enseigner dans les heures les plus sombres de l'histoire.
Tout à fait le rôle d'un instituteur, M. Marnier, qui fait partie intégrante de la vie du village, de la même manière que le maire, le curé, le poissonnier, comme ça se faisait à l'époque, et qui a cette volonté de continuer à transmettre son savoir et à transmettre sa pédagogie, même en temps de guerre, même quand les temps sont difficiles, même quand l'académie lui impose des restrictions dues à l'occupant nazi, et qui va essayer malgré tout de rester un phare éducatif, en tout cas au moins, pour ses enfants dans ce temps de guerre.
Le réalisateur plante sa caméra ici, en effet, dans un petit village où on y voit la vie des habitants et donc le professeur, l'enseignant durant cette Seconde Guerre mondiale, du début de la guerre jusqu'aussi à l'arrivée des Allemands. C'est un film aussi sur la guerre par le regard des enfants.
C'est ce conflit de la Seconde Guerre mondiale qui est vu à hauteur d'enfant. Que se passe-t-il dans la tête de ces petites personnes quand de tels événements arrivent à leur porte, surtout dans un village calme en France, comme il y en a des milliers et qui ont connu ce traumatisme? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quelles peuvent être leurs réactions pour aider le village, aider les parents, peut-être même en cachette, pour les aider à sortir de cette torpeur?
Le professeur des écoles est bien sûr dans ce groupe des habitants pour savoir ce qui se passe. Et justement, comment dans ce film, les enfants perçoivent ce moment? Vous, en effet, on l'a dit, vous enseignez, vous continuez à enseigner, mais les enfants, évidemment, voient qu'il y a un grand changement.
Je dirais que ça commence même par un changement et un éveil des sens. C'est-à-dire que l'arrivée de l'occupant, des Allemands, est représentée dans le film notamment par des bruits, par des sons, des vrombissements, des bruits de chars qui arrivent dans la ville, qui sont très inquiétants, qui peuvent faire peur, cette espèce d'ombre voilà, qui arrive lentement et qui plane sur le village. Donc c'est par ça qu'arrive cette terrible épreuve de la guerre pour les enfants, d'abord. Ils n'ont pas toutes les cartes en main pour comprendre complètement ce qui se passe, et justement ce professeur va être là peut-être pour les aider et les orienter.
Alors, il y a une séquence forte dans ce film, justement, où il y a deux soldats allemands qui sont dans le village et qui viennent jouer au football avec les enfants et le prêtre arbitre, ici joué par Gérard Jugnot. Derrière l'horreur, il y a ce moment d'humanité encore.
Bien sûr, parce que une guerre, quelle qu'elle soit, n'est pas forcément manichéenne. C'est pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est beaucoup plus subtil que ça. Les langues se délient avec le temps. La Seconde Guerre mondiale, ça commence à faire quelques années maintenant, même si on est encore tous en point de ces événements. Mais évidemment, du côté des Français, il y avait aussi des salopards, et du côté des Allemands, il y avait peut-être des bonnes âmes. Et c'est justement ce genre de séquence qui permet de montrer que, même en temps de guerre, il peut y avoir des petits sursauts d'humanité.
Et ce soldat qui est en vérité derrière un joueur de foot. On l'a fêté d'ailleurs durant ce Arras Film Festival, les 20 ans du film Joyeux Noël. Moi, j'ai repensé immédiatement à cette scène de fraternité où ils sont tous ensemble aussi, où ils jouent ensemble aussi.
Oui, bien sûr, avec Danny Hiboun et Guillaume Canet. Mmh. Oui, très beau film qui a déjà 20 ans, ça passe vite. Mmh. Mais effectivement, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le regard de son adversaire, quand il y a une petite pause, qu'il y a une petite accalmie, on peut sentir la même humanité que nous-mêmes on peut avoir. Et on trouve des terrains d'entente. Alors après, évidemment, quand les armes reprennent, il faut faire ce qu'on nous dit. Il faut obéir aux puissants qui sont les premiers à mettre en place et à instiguer ces guerres. Mais au final, non, je crois que plus que jamais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que voilà. Un petit peu d'humanité, de fraternité, de temps en temps, ça fait jamais de mal.
Jusqu'à un jour de 1940, où la guerre tente de me voler mon enfance.
Vous comptez rester longtemps ici ?
Le temps qu'il faudra.
Me laissez pas !
Mais avec mes amis, on n'était pas prêts à se laisser faire. Allez, viens.
C'est quoi tourner un film avec Christophe Baratier, un grand cinéaste français dont j'ai cité les films dans la présentation. Et aussi, on sait que c'est un gros barnum, hein, toujours avec les films de Christophe Baratier. Donc, comment ça se passe en tournage ?
Ça se passe très bien. C'était un film qui a été relativement bien produit. Et Christophe Baratier a su nous mettre tous très à l'aise très rapidement, parce qu'on connaît sa carrière, on connaît ses succès. Et sur le plateau, c'est quelqu'un de très simple, qui sait exactement ce qu'il veut, qui a sa musique en tête et qui nous oriente de manière très précise et bienveillante. Alors moi, qui viens davantage de la comédie, j'ai un petit cheptel de films de comédie dont je suis très fier. C'était une des premières fois où vraiment j'avais un rôle particulier dans un drame historique, parce que ça reste par moments léger, mais les enfants de la résistance, ça parle de la guerre, donc c'est forcément dramatique. Et j'ai découvert, grâce à Monsieur Baratier, des choses que je ne soupçonnais pas encore chez moi, dans mon jeu. J'avais peut-être une petite appréhension, est-ce que je vais être à la hauteur pour assumer un personnage pareil, et c'est une nouvelle manière de travailler qui m'a ouvert des nouveaux tiroirs, en fait. Oui, je me suis vraiment surpris à être submergé par une émotion au premier degré pendant le tournage de certaines séquences. Et c'était très nouveau pour moi et très agréable aussi.
Vous représentez le camp éducatif, le camp professoral aussi dans ce film. Où on va chercher l'inspiration ? Est-ce qu'on se dit « je vais chercher en moi-même » ou est-ce qu'on fait un vrai travail même de recherche aussi, de voir comment vivaient les professeurs à cette époque ?
En fait, c'est une période de l'histoire de France que je connais bien parce que j'ai fait déjà pas mal de projets qui se sont passés pendant la guerre de 39-45. J'ai aussi déjà joué des instituteurs de manière régulière. C'est marrant, je dois avoir un truc particulier avec les enfants. Pour jouer ce rôle, je suis allé chercher dans mon expérience personnelle. J'ai un oncle qui a été directeur d'une école pendant plusieurs années dans le sud-ouest, du côté de Viazac, dans l'Aveyron. Et j'avais aussi un professeur d'histoire géographie que j'aimais tout particulièrement quand j'étais au collège, au lycée, qui aussi était mon premier professeur de théâtre, qui avait une espèce de don particulier pour arriver à nous transmettre des concepts parfois un petit peu abstraits de l'histoire, avec une pédagogie absolument formidable. Et je pensais très fort à ce monsieur, monsieur Yves Manessier, voilà, qui était un de mes professeurs favoris.
Donc ce n'est pas la première fois que vous jouez un professeur, mais néanmoins dans ce film, comment ça se passe de jouer avec des enfants? Et on les voit là, déjà ils sont super, hyper actifs. Je pense qu'au tournage, c'était évidemment un plaisir de travailler avec des enfants, mais il faut aussi les canaliser.
Il faut les canaliser, ils ont beaucoup d'énergie, mais ils sont charmants parce qu'ils ont cette espèce de fraîcheur que nous avons perdue malheureusement depuis bien longtemps, vous savez. Mais en fait, il faut savoir qu'on n'est pas tout seul non plus. Moi, je ne suis pas tout seul avec les enfants dans la classe. Autour, il y a aussi une grosse équipe, il y a 50, 60 personnes, des techniciens. Ça parle fort, ça donne des indications très précises. Donc, entre les prises, forcément, ils avaient cette énergie à devoir lâcher, à dépenser. Mais ils étaient très concentrés sur le plateau et ils avaient le même stress que nous. C'est-à-dire que même moi, après plusieurs années, quand on va démarrer une nouvelle séquence, je peux avoir un petit coup de stress. Est-ce que mon texte, je vais arriver à le placer comme il faut? Et sur ça, moi, j'essaie de les rassurer en leur disant, t'inquiète pas, j'ai l'air un petit peu plus grand et j'ai une moustache. Enfin, aujourd'hui, j'ai une moustache, mais j'ai les mêmes problématiques que toi. On va voir ce qui se passe quand la caméra va tourner.
On tourne, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a le plaisir, il y a du jeu et puis c'est des enfants.
Oui, bien sûr, il faut que ça reste une distraction, il faut que ça reste un plaisir, c'est du jeu. Moi, je fais ce métier-là et je continue de le faire parce que j'étais un petit garçon très timide, le théâtre m'a permis de me libérer et surtout je prends un plaisir phénoménal à me déguiser, à continuer à mettre des perruques et à mettre des costumes pour interpréter des personnages, faire vivre des personnages, ça c'est absolument formidable et c'est sur ça qu'il faut axer avec les jeunes acteurs. Il faut que ça reste un plaisir, c'est du jeu.
On va la garder quelques jours.
Merci.
Et si on la faisait passer pour une de tes nièces?
C'est pas bête, ça. Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls.
Et Sapo, faites sortir vos élèves.
Et vous, vous dites rien?
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise?
Vous êtes rien que des lâches, c'est tout.
On peut pas rester comme eux, là, sans réagir. On enverra des messages aux gens.
L'occupant pille les ressources du pays pour les ramener chez eux. Signé Lynx.
Mais est-ce que maintenant, en 2025, avec cette génération qui grandit très vite avec les images, est-ce qu'ils ont déjà les codes du cinéma, les codes de savoir comment il faut se placer?
Ça dépend totalement des enfants. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont à l'aise à l'école? Est-ce qu'ils ont... Non, je crois qu'il n'y a aucun des personnages d'enfants qui avaient déjà joué vraiment au cinéma, devant une caméra. Et malgré tout, ils n'ont pas agi pareil. Il y en a qui cherchaient un petit peu leur marque encore, qui étaient parfois hésitants, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir à quel endroit se placer pour être dans la lumière, face à telle caméra, où est-ce qu'il faut regarder. Il faut regarder de l'autre côté, alors que le personnage n'est pas là, mais c'est pour des histoires techniques. Donc ça peut être déroutant. Et à l'inverse, il y a des enfants qui n'avaient non plus jamais mis les pieds sur un plateau et qui ont eu cet instinct immédiat de savoir comment se placer et d'être dans une énergie de tournage. Et c'est assez fascinant à voir parce que moi-même, quand j'avais 10 ans, j'aurais été incapable de faire ça. C'est un tournage qui a duré 9 semaines. Pour les enfants, ils tournaient avec nous une partie de la journée et le reste du temps, ils allaient faire des cours pour rattraper parce que forcément, c'était en période scolaire. Il ne faut pas non plus abandonner complètement l'école à cet âge-là. Donc, pour eux, c'était un programme très chargé. Ils sont à l'image quasiment pendant tout le film, ça doit représenter pour eux, je ne sais pas, peut-être 30 ou 35 jours de tournage. Donc ils avaient vraiment un planning digne de ministre. Nous, à côté, on était presque en vacances, quoi.
Ah oui, moi aussi, je les ai reçus, mais je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis pour la collaboration et le maréchal.
Heil Hitler.
Heil. Vous
savez, il y a plusieurs noms, mais il n'y a qu'un seul lieu. Et je n'ai pas vraiment l'impression qu'ils s'occupent de nous en ce moment.
Il faut quelque chose qui frappe les esprits.
Arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre.
Mais la guerre est finie.
Pas pour tout le monde.
Sois fier de toi. T'as un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple.
On a tourné le film il y a un an à peu près, c'est ça, à l'automne 2024. Il faisait pas chaud. Nous étions en Bourgogne, dans un village à 30 minutes au sud d'Auxerre qui s'appelle Meilly-le-Château, qui avait été intégralement redécoré avec des devantures d'époque, même jusqu'à l'intérieur des boutiques, tout avait été complètement décoré, accessoirisé, comme dans les années 40. Et on vivait là quasiment tous les jours. On se retrouvait comme une petite famille avec nos habits, nos costumes des années 40, tous les figurants habillés en années 40, les véhicules des années 40. Et on a l'impression finalement d'avoir fait comme un petit voyage pendant ces deux mois de tournage. Un voyage dans le temps, ouais, et temporaire, mais ça marque aussi quand même dans les esprits. Ouais.
Et vous les avez vus aussi changer, vous, ces enfants, au fur et à mesure des jours, des semaines?
Bien sûr, bah, ils se sont améliorés, ouais, au fil mais des aussi, jours.
Mais aussi personnellement, ils ont pris. Tout à l'heure, vous avez dit, il y en a qui cherchaient un peu leur place. Et ben, finalement, ils l'ont trouvé leur place.
Oui, je pense. Et je pense que je me suis aussi reconnu dans certains des jeunes acteurs. Je vous disais que j'étais moi un jeune garçon assez timide. Je pense qu'il y en a certains qui avaient ce tempérament-là aussi et qui se sont découverts peut-être une fibre artistique grâce à ce film. Et j'espère que ça leur portera chance pour la suite.
Aujourd'hui, dans les salles, les enfants de la Résistance, merci à l'acteur Julien Pestel, rencontré au Arras Film Festival le dernier jour, la dernière heure du Arras Film Festival. C'était un bon moment. Ce jour sort aussi la première comédie d'Amel Silla, L'Infiltré, et eux, Hurlevent, avec Margot Robbie, et LOL 2.0 de Lisa Azuelos avec Sophie Marceau. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de LOL, mais il y a une musique, moi, qui est en tête, c'est Little Sister, c'est Jean-Philippe Verdun, et on l'écoute tout de suite, pour mon plaisir, mais aussi pour le vôtre.
Des terriers au beffroi, le cinéma du Nord s'invite chez vous, sur Scarpe Sensée.
We used to say that we were brother and sister. We used to think nothing was ever bitter. Today I break my promises to stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. We used to play all the games. Well, no one's the winner. We used to laugh and make lies sound even better. Today I break my promises to stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. Take me out there. Today I break my promises to stay out of the emptiness. Today let's make our promises for tomorrow. La 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 la
J'adore cette chanson. Little Sister, Jean-Philippe Verdun, tiré de la musique du film LOL. Aujourd'hui sort le deuxième opus, en salle toujours réalisé par Lisa Azuelos, où le personnage incarné par Sophie Marceau va devenir grand-mère. Scarp Ciné continue avec la séquence L'Instant Ciné, vous le savez. On a interviewé des personnalités et ils nous parlent de leur film préféré. Et Carole a rencontré au Pont de Singe à Arras deux humoristes. Le premier, Mustapha Lagraoui, pour son spectacle Intermutant du spectacle. On l'écoute tout de suite sur Radio Scarp Sensé. Il nous parle de son coup de cœur, bien connu de tous.
Alors, enchanté, bonjour, bonsoir, je m'appelle Mustapha Lagraoui, j'ai 49 ans. J'habite sur Annay-sous-Lens, donc dans le bassin minier. Je fais de la scène depuis 25 ans à peu près. Donc moi, je viens du théâtre. Et mon film préféré... c'est Les Tontons Flingueurs. Alors pourquoi Les Tontons Flingueurs ? Parce que pour les besoins d'une pièce de théâtre... À l'époque, il y a une quinzaine d'années, j'ai dû interpréter un personnage avec l'accent Titi parisien.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on vient à vous.
Et la metteuse en scène à l'époque m'a dit « Regardez Tonton Flingueur ». Donc j'ai enchaîné ce film, je l'ai regardé. J'ai pas arrêté de le regarder pendant un week-end complet. Et j'ai réussi à m'imprégner justement des personnages, de l'ambiance, et à jouer un personnage un peu à la Titi parisienne.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Et puis ce film, il y a une ambiance particulière. Il y a un humour particulier. C'est un film qui date des années 60. Noir et blanc. Avec des acteurs, mais que des monstres du cinéma.
Touche pas le Grisby, salope !
La musique, l'ambiance, tout me plaît dans ce film. La couleur, le jeu des personnages. Et je m'en suis inspiré pour cette pièce de théâtre et aussi pour d'autres spectacles. Et aujourd'hui, je présente un spectacle assez décalé, assez absurde, qui s'appelle Intermutant du spectacle. Donc je parle pas à la Titi parisienne, mais... j'intègre cette ambiance un peu décalée à l'image de l'ambiance qu'il y a dans ce film.
Si vous montiez les bagages de Monsieur Naudin.
Yes, sir.
Alors, celui qui me plaît plus, c'est Lino Ventura.
Patricia, mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser, menu.
Pour moi, il interprète de manière somptueuse le rock, la personne qui n'est pas perturbée et qui avance coûte que coûte, et aussi la personne sensible. Donc, c'est un peu l'être humain dans son côté obscur et son côté éclairant et lumineux.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.
Celle que j'apprécie, c'est la scène finale. Où tout le monde se tire dessus, et c'est le son qui est particulier. On entend c'est des pistolets avec des silencieux, et donc on entend pouf, pouf, pouf. Et donc, malgré la violence de la scène, ça crée un effet comique. Et donc, moi, c'est une scène qui me fait beaucoup rire, parce qu'il y a vraiment un jeu entre le son, on dirait un son de tire-bouchon, de bouchon de champagne. On a l'impression que c'est la fête, alors que c'est un vrai carnage.
T'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
Je m'en vais lui faire une ordonnance.
Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, ça son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
C'est culte, c'est mythique, merci et ça donne envie de revoir le film. Mostapha Lagregouille sera le 20 février au Pont de Singe pour Intermutant du spectacle à 19h. Courez le voir, Carole m'en a dit que du bien. Autre talent de l'humour de la région, Gaëtan Petit, toujours rencontré par Carole au Pont de Singe à Arras.
Gaëtan Petit, humoriste et comédien aussi, on peut le dire, on peut l'ajouter.
Tu me reconnais pas, c'est ça?
Ah mais oui, 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 Christine de Berlin.
De Londres.
De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé.
C'est ta fille.
Alors moi, je suis un grand fan des comédies françaises. Toutes les comédies, souvent critiquées, les comédies françaises, moi j'adore ça.
Se barre là, non? Christine! T'as oublié tes affaires?
Comédie française, et donc ma préférée, c'est Demain tout commence avec Omar Sy. Ce que je regrette avec ce film, c'est qu'un film qu'on peut vivre ses sensations qu'une seule fois. Parce qu'on connaît pas, quand on connaît pas l'histoire, c'est incroyable ce qu'on ressent la première fois qu'on le voit. Et j'ai essayé de le regarder une deuxième fois et on ressent plus les mêmes choses parce qu'on a compris l'histoire, donc on s'attend à ce qui va se passer. Mais donc c'est un film. Une comédie tout le long du film, donc on rigole, c'est de la blague, et puis c'est dedans un cascadeur, il fait vivre une vie de rêve à son enfant, donc il y a le côté enfant en nous qui ressort, il y a un toboggan pour descendre de sa chambre, il arrive dans une piscine à boules, c'est extraordinaire. Et à la fin, par contre, avec ma femme qui est à côté de moi, on a pleuré, mais comme des madeleines, et on s'est dit, ah, ils nous ont eu. C'est un film vraiment extraordinaire et j'adore ce film. Mais mon regret, c'est qu'on peut le voir qu'une fois, parce qu'après, on n'a plus les mêmes sensations sur nous. J'aime tous les sortes de films, selon ce que j'ai envie, comme mon état d'esprit, une bonne comédie. Un soir où on n'a pas envie de réfléchir, on veut juste rigoler.
Y a quelqu'un? C'est votre voisin?
Un flic infiltré. Enchanté, agent Broker.
Bonne comédie, ou alors après, encore mieux, c'est les films de bagarre américains, avec Statham par exemple. Bonjour, tous, Homefront, mon préféré c'est Homefront, parce qu'il y a quand même une petite histoire un peu derrière, mais sinon c'est que des scénarios très simples, on va kidnapper sa femme ou son enfant, et il va casser la gueule à tout le monde. Et là, c'est très bien ça.
Un ami m'a donné ce mot, c'est de l'albanais, vous pouvez me le traduire?
Merci.
Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance.
En tout cas, votre fille a rien à craindre avec un papa aussi costaud.
On l'appelle Gator, méfie-toi de lui. Il paraît qu'il fabrique de la meth.
Je vais pas laisser un mec des stupes venir fouiller chez moi. On se le fait.
La scène culte dans Tekken où le bon chance, ah là, si on peut le vivre en vrai, ce serait incroyable. Non, pas de se faire kidnapper, mais d'avoir ce charisme et cette aura en disant à quelqu'un « Je vais te retrouver, de toute façon, ne t'inquiète pas », c'est incroyable ça.
Caché et tu bouges pas. Un homme armé essaie d'entrer dans la maison. Allez.
Bah, c'était un film avec Kev Adams. C'était lequel où il s'occupe d'un enfant, un bébé. Et moi, je parle de la paternité sur scène. Et c'était dans la bande-annonce en plus, ce truc. Il y a une vanne où je me dis, ah ouais, c'est pas mal. Parce que j'aborde à peu près la même blague, mais faite différemment. Et du coup, je dis, ah, comme ça, c'est pas mal aussi. Ouais.
Le bébé, c'est l'avenir.
On peut lui mettre une litière.
J'ai un vrai savoir-faire avec les enfants.
Qu'est-ce qui se passe?
Sa couche encore débordée.
Attention, Jacques, là, c'est quoi ça?
Ouais, c'en est. T'aimes pas le chocolat? On a bien eu ton papa.
Tu vois, je peux rester ici.
Ouais, ça vient.
On m'occuperait de la petite.
Waouh!
T'as faim, t'as soif, t'as envie de faire caca, je sais pas.
Je suis crevé, moi, en ce moment. Je suis pas prêt pour tout ça, de toute façon.
Merci à Gaëtan Petit à découvrir sur les réseaux et dans son spectacle « Ainsi va la vie » en tournée dans la région. C'est le clap de fin de Scarp Ciné. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les précédentes émissions sur radioscarpsensé.com. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de ciné en région. Merci à Carole pour ses interviews. Allez au cinéma.
Scarp Ciné,
séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarpe Sensé, ça tourne.
Et action!